Bonjour. Alors, je vous promets, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un mensonge ce que je vais vous dire, comme j'ai pu en dire beaucoup lors de ma scolarité. Mais ce matin, quand j'ai voulu retravailler mon PowerPoint, je ne le trouvais plus sur mon ordinateur. Impossible de le retrouver, j'ai dû faire une fausse manipulation et je l'ai supprimé totalement et donc je n'ai pas pu le retrouver. Et pourtant, il était bien utile. Mais croix de bois, croix de fer, c'est vrai, hein, j'en avais fait un. Il était là et il aurait pu servir à vous aider à comprendre. Mais j'espère que vous allez tout de même comprendre. Donc, ça va me faciliter pour moi quand même la vie, puisque je n'aurai pas à le commander d'ici. Ce matin, parmi nous, certains sont éprouvés. Je le sais, et même statistiquement, ce serait impossible que certains parmi nous ne soient pas dans des grandes difficultés. Éprouvés par la maladie, le chômage, difficultés de couple, ou difficultés avec un membre de notre famille, un enfant peut-être, ou quelque chose comme ça, difficultés professionnelles, et j'en passe. Certains peut-être aussi sont en recherche spirituelle et viennent ici depuis un certain temps, mais n'ont toujours pas trouvé réponse à leurs questions. Et cherchent encore, cheminent à la recherche de Dieu et à ce qu'il a à leur dire. Certains parmi nous aussi sont probablement dans une période de sécheresse et de découragement spirituel. Cela nous arrive à tous. Et d'autres recherchent tout simplement à renouveler, à retrouver une pleine satisfaction dans leur foi. Bref, nous avons tous un point commun ce matin. Comment trouver du ressourcement spirituel? Comment est-ce que Dieu peut nous amener à ce plein épanouissement qu'il nous promet et qu'il veut nous vendre au travers de la Bible? Pouvons-nous véritablement le vivre? Dieu peut nous ressourcer, nous le savons, nous qui cheminons avec lui depuis un certain temps, de bien de manière différente. Mais à un moment donné ou à un autre, Dieu nous fait revenir au cœur de l'Évangile pour nous ressourcer. Le cœur de l'Évangile qui est la mort et la résurrection de Christ. Tous les chemins mènent à Rome, et bien tous les chemins spirituels mènent à la croix. Et le texte que je vais exposer ce matin la considère, cette croix, sous son angle, sous l'angle, pardon, de ses conséquences existentielles, c'est-à-dire de ses conséquences pour notre vie, à nous qui croyons, c'est-à-dire de méditer sur ce que la mort et la résurrection de Christ transforment, changent, métamorphosent aujourd'hui dans notre vie. Il faut avant tout se rappeler que l'Évangile n'est pas un mantra, n'est pas une formule magique que l'on répète. Ce n'est pas parce qu'on y croit fort que ça devient vrai, c'est l'inverse. C'est bien parce que c'est un fait réel, historique, la mort et la résurrection de Christ, avec des implications essentielles pour nous, c'est-à-dire notre salut, que nous pouvons y croire et nous y attacher. L'Évangile est une vérité à vivre, pas simplement une vérité à laquelle on adhère, une vérité à se saisir et à vivre, une expérience ressourçante de la vie auprès de Christ, mais mieux, de la vie en Christ. Nous nous ressourçons en Christ quand son évangile nous remet devant la réalité de ce que nous sommes en lui et de ce qu'il a accompli pour nous. Nous traiterons donc ce matin de comment la mort et la résurrection de Christ déterminent notre identité, mais aussi la structure, structure notre façon de vivre, structure notre façon de lutter contre le péché, mais aussi de vouloir vivre pour lui. Nous avons cette expression souvent dans nos milieux qui est très juste théologiquement, où nous disons que nous voulons une vie centrée sur la croix. Amen. Une vie centrée sur la croix. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement, cette vie centrée sur la croix? Eh bien, le texte que nous allons lire dans l'Épître aux Colossiens, que je vous invite à prendre, maintenant, à partir du chapitre 2, verset 20, que nous lirons jusqu'au verset 14 du chapitre 3. Ce texte nous invite à reconsidérer cela. Alors, il y a toute une dimension dans ce texte liée à la vie communautaire et la façon dont elle aussi structure et ressource notre vie avec Christ. Mais par souci de concision ce matin, je laisse cet aspect de côté et probablement que j'y reviendrai lors d'une autre prédication. Je commence la lecture donc dans Colossiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui n'ont fondé et qui se sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ce texte est très dense et il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce propos. Mais Paul nous amène au cœur de ce texte à contempler ce que la réalité historique de la mort et de la résurrection de Christ a porté, a opéré pour nous. Nous sommes sauvés, c'est le salut dont parle Paul, mais aussi à mettre toute notre vie au diapason de cette réalité-là. Parce que par la nouvelle naissance, nous avons été unis à lui. En quelque sorte, nous avons été intégrés à son œuvre. Et lorsque nous avons fait notre série d'études bibliques sur le Saint-Esprit, nous avons vu le rôle du Saint-Esprit qui est notamment de nous unir à Christ, c'est-à-dire de nous appliquer les bénédictions liées qui découlent de son salut dans notre vie. Et la bénédiction principale, c'est d'être sauvé, de lui appartenir, d'être racheté par lui et de devenir membre de son peuple, membre de son royaume. Et vous le voyez dans ce texte, c'était là que mon PowerPoint était utile, Paul donne un regard croisé. Il parle à certains moments des côtés négatifs, c'est-à-dire du péché, de la mort, etc. de Christ, et puis des aspects positifs de sa résurrection et de ce qu'elle implique dans notre vie. Et Paul donne volontairement, je crois ici, un regard totalement croisé. Mais par souci de clarté, je vais les séparer en deux. Deux clés que Paul nous donne dans un regard croisé à propos de la mort et de la résurrection de Christ et de ses implications dans notre vie chrétienne. La première de ces clés que je développerai, c'est que nous devons faire mourir en nous ce pourquoi il est mort. Faire mourir en nous ce pourquoi il est mort. Et la deuxième clé, laisser vivre en nous ce pourquoi il vit. Alors, attaquons. Premier point, faire mourir ce pourquoi il est mort. Paul énonce une vérité très importante par deux fois dans ce texte, où il nous dit « Vous êtes mort avec Christ ». Vous êtes mort avec Christ. Est-ce que je peux vous le dire à vous aussi ce matin ? Vous êtes mort avec Christ. Est-ce que nous comprenons cette phrase qui, à première lecture, semble énigmatique ? Il y a un sens profond caché là derrière. Nous sommes morts avec Christ. Ce que Paul veut rappeler aux Colossiens, et je crois ce que Dieu veut rappeler à tous ses enfants au travers de ce texte, c'est que tout ce que Christ a fait en tant que notre représentant, en tant que notre Sauveur et Seigneur, nous est imputé, nous est appliqué par le Saint-Esprit à notre identité, à ce que nous sommes. Par la foi, la justice de Christ devient la nôtre. Par la foi, son obéissance devient la nôtre. Par la foi, sa condamnation devient la nôtre. Sa mort devient la nôtre et sa résurrection et sa vie aussi deviennent les nôtres. Tout ce que Christ a fait pour nous, avec au cœur de cela sa mort et sa résurrection, sont totalement suffisantes, parfaites, complets pour que notre salut nous soit accordé par la grâce seule. Il a tout accompli pour nous. Et c'est pour cela que Paul, face à une mauvaise doctrine qui est en train de se répandre dans cette église de Colosse, veut rappeler aux chrétiens que le ressourcement en Christ se fait avant tout par la méditation de sa mort. Nous devons méditer la mort de Christ et ce qu'elle implique pour nous dans notre vie. Et comme je vous le dis, cette doctrine-là essentielle, cette vérité biblique essentielle, semblait menacée dans cette église. Il y avait un courant doctrinal que Paul développe à la fin du chapitre 2 que nous avons lu, qui donnait une certaine vision du monde, de la réalité, qui prônait ce que l'on pourrait appeler, je crois, l'ascétisme. L'ascétisme consiste à dire qu'il est mauvais de prendre plaisir dans les choses matérielles au travers de nos sens. Tout ce qui est de l'ordre du plaisir, tout ce qui est de l'ordre du monde matériel est quelque chose qui est là pour nous pervertir. Donc il ne faut pas toucher, il faut s'en priver pour rester pur. C'est une forme sournoise de légalisme qui nous encourage à dire « si je me prive et me force à des pratiques religieuses contraignantes, alors Dieu va m'aimer, Dieu va me pardonner. » Ce courant était largement inspiré, influencé par la vision qu'avait développée Platon du monde grec, un monde duel dans lequel il y a un côté tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel, du spirituel qui est bon, et de l'autre tout ce qui est de l'ordre du matériel et qui est mauvais, qui est voué au péché et à nous détourner de la pureté. Et donc, cette influence-là rentrait dans l'Église, alors que ce n'est pas du tout cohérent avec ce que nous enseigne la parole de Dieu. Mathieu Giralt nous l'avait développé dans le séminaire que nous avions sur la vision du monde, où il nous rappelait que tout ce que Dieu a créé est bon. La matière aussi, à la base, a été créée par Dieu et quelque chose de bon. Cette vision-là qui sépare en deux le monde est totalement fausse. Et cette influence grecque-là a influencé l'Église aussi, tout au long des deux derniers millénaires. Encore aujourd'hui, certains mouvements, plutôt des sectes évangéliques, on pourrait dire, ou je ne sais même pas si c'est juste d'accoler secte et évangélique dans la même phrase, mais certaines sectes, en tout cas, qui se prétendent d'arrière-plan chrétien, prônent aussi cette forme d'ascétisme. Dans l'histoire, certains moines se castraient volontairement et se brûlaient le bout des doigts, d'autres se crevaient les yeux pour se protéger de l'impureté. Certaines religions, comme le bouddhisme, prônent aussi le détachement total des biens matériels et des sens qui sont finalement que illusoires et nous invitent à voir une autre réalité que celle qui nous est présentée. L'ascétisme est quelque chose de profondément trompeur. L'ascétisme est à la grâce ce que le Canada Dry est à la bière. Vous souvenez-vous de cette publicité du Canada Dry ? Ça ressemble à de la bière, ça a la couleur de la bière, ça sent presque même comme de la bière, mais ce n'est pas de la bière. L'ascétisme nous fait croire que c'est une pratique chrétienne à la grâce, qui découle de la grâce, mais en réalité, ça ne l'est pas. Et Paul explique pourquoi dans ce texte. Il nous dit que ça en a l'apparence. Une apparence de sagesse. Et c'est vrai que quelqu'un qui s'impose une grande rigueur dans sa vie spirituelle, ça en jette, ça nous impressionne. Et on va se dire que cette personne-là est bien meilleure que nous, bien plus favorable aux yeux de Dieu que nous. Et sur quoi ceci est fondé, Paul le dit, la pensée de l'homme, la religion humaine. Et donc, quels en sont les buts ? Qu'est-ce qui est flatté dans cette vision-là de la piété et de la grâce ? Eh bien, le but est d'en vanter les mérites de l'homme. Il y a peu, j'ai lu un article qui révélait plusieurs choses à propos de la vie de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II était un homme qui s'auto-flagellait, qui pratiquait cette chose-là encore, alors qu'il était pape lui-même, s'auto-flagellait régulièrement et s'imposait de dormir à même le sol pour, je cite, « éviter les passions de la chair ». Le Figaro qui relate ceci. « Le légalisme consiste à croire que c'est grâce à mes efforts que Dieu va m'aimer, alors que c'est grâce à la mort de Christ que Dieu m'aime, que Dieu démontre son amour. Le légalisme repose sur ce que moi je fais pour détruire le péché, lutter contre ma chair par ma chair, alors que la grâce repose sur ce que Christ a fait pour détruire mon péché, sa mort à la croix. Nous vivons dans une société qui nous met tout le temps au défi de la performance, de relever le challenge et qui flatte les efforts. Même au sein de l'Église, nous pouvons retrouver malgré nous cette tendance-là à mettre en avant ceux qui sont plus forts, ceux qui ont une capacité de résistance et une persévérance plus forte que les autres, des chrétiens admirables. Et peut-être que ce matin, vous êtes à des années-lumière de cela. Vous dites, mais moi je ne suis pas assez et je ne serai jamais assez fort, jamais assez capable. Alors peut-être que si vous êtes comme moi, vous dites, ben, il faut que je fasse plus d'efforts, il faut que je me mette des coups de pied là où il faut pour avancer un petit peu et arrêter de m'écouter. Alors demain matin, je vais reculer mon réveil de 3 heures et je prierai à genoux pendant 2 heures et puis je lirai ma Bible 1 heure. Je l'ai déjà fait. J'ai tenu 2-3 jours et puis après j'ai abandonné et puis je recommençais et puis j'avais toujours des choses comme ça. Enfin bref. Tous les efforts que nous pouvons faire pourront peut-être nous améliorer un petit peu pendant un temps si nous sommes forts, effectivement, mais ne produiront jamais ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de devenir meilleur. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être transformé, c'est d'être lavé, c'est d'être purifié, renouvelé et ressourcé. Et ça, seul Dieu, par Christ, peut le faire pour nous. Dieu ne me demande pas de la performance. Dieu me demande de la dépendance. De la dépendance. Et le ressourcement spirituel, le ressourcement en Christ, passe par une redécouverte du regard vers la croix. Et ce texte nous invite à méditer cette vérité. Nous sommes morts avec lui sur la croix. Et méditant cela, nous trouvons le ressourcement nécessaire et glorifions Dieu par la même occasion. Car nous nous rappelons que si la mort est suffisante, si la mort de Christ est suffisante pour lui, alors elle doit l'être pour moi. Mais il y a une tension. Il y a une tension là dans ce texte et c'est la première tension que je vais soulever. En même temps, Paul dit que nous devons mortifier, mettre à mort le péché. Le fait que la mort de Christ soit totalement suffisante pour notre salut ne nous donne pas un pass pour vivre la vie telle que nous le voudrions, nous livrer à toutes nos passions charnelles. Paul, à aucun moment, en condamnant le légalisme, veut dire que nous pouvons vivre selon notre propre désir et notre propre moralité. Il y a des impératifs liés à la vie chrétienne et à la mort de Christ. Vous êtes mort avec Christ, 3 points, faites donc mourir. Faites mourir ce pourquoi il est mort, c'est-à-dire le péché. Méditer la souffrance et la mort de Christ pour notre salut nous amène nécessairement à vouloir mettre à mort ce pourquoi il est mort. Et c'est ce qu'il développe dans les versets 5 à 9. Paul insiste sur le fait que notre position en Christ ne nous exempte pas de l'obéissance. Il y a une symétrie vitale, une symétrie organique, je ne sais pas comment le dire, entre la vérité biblique et l'expérience chrétienne, la vie chrétienne. Comme il donne la vie en Christ, Dieu nous ordonne aussi de mettre à mort dans notre vie ce pourquoi Christ est mort. Et Paul veut souligner par là que la vraie compréhension de la souffrance, de la perfection et l'amour manifesté au calvaire nous pousse à renoncer, comme il dit, et à nous dépouiller du péché. Il ne s'agit pas de mortifier le corps pour obtenir l'amour de Dieu, mais de mortifier le péché par amour pour Dieu. Et c'est ce que l'on appelle la mortification du péché. Faites mourir ce pourquoi il est mort. C'est mortel. Ouais, bon, ma blague aussi est mortelle. La mortification du péché. La mortification du péché est l'une des facettes de ce qu'implique ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire ce processus dans notre vie chrétienne dans lequel Dieu veut nous transformer par son esprit à la ressemblance de Jésus-Christ. Et un des aspects de cette œuvre-là, la sanctification, est de mettre à mort le péché, de le mortifier. Le théologien John Owen dit de la mortification qu'elle consiste, je cite, « à retirer sa force au péché de manière à ce qu'il perde progressivement son pouvoir sur nous. Ce que veut dire John Owen par faire mourir, et ce que veut dire surtout Paul par ceci, c'est que nous devons mettre à mort le péché dans notre vie, le nécroser, l'étrangler, l'asphyxier, essayer de lui retirer toute sa vigueur. Bref, ça consiste à livrer une guerre contre le péché. Une chose est sûre, le péché, lui, nous livre une guerre quotidienne. Vous êtes d'accord avec ça? Vous le constatez comme moi? Le péché nous livre une guerre quotidienne. Et si nous sommes libérés de sa condamnation, si nous sommes libérés de son esclavage par la régénération, nous ne sommes pas non plus libérés encore de son harcèlement, de son oppression, parce que le péché va toujours tenter en nous de reprendre le dessus. Le péché affaiblit notre âme, il pourrit notre communion fraternelle, la gangrène, et détruit notre service. Et Paul énumère deux chapelets, un petit peu dans ce texte-là, dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails, en versets 5 à 6, hein, des péchés plus d'ordre de la débauche et de l'impureté, et puis plus loin, dans les versets 8 à 9, tous les péchés d'ordre relationnel qui mettent en danger de mort la communion fraternelle et l'Église. Qu'est-ce que la mort du péché implique concrètement? Je l'ai dit, une déclaration de guerre. Livrer une guerre quotidienne à notre péché, car notre épanouissement dans notre vie chrétienne est inextricablement lié à la lutte que nous devons mener contre le péché. J'ai, dans ma vie passée, pendant quelques années, pratiqué des sports de combat. J'aimais beaucoup ça, et dans un sport de combat, on s'entraîne pour le combat. Donc le moment clé dans les entraînements, c'est à la fin quand on se retrouve à faire un combat. Si on arrive contre notre adversaire en étant un peu passif et en n'ayant pas trop envie de nous battre contre lui, alors que lui, il est là pour ça, bah, on rentre avec des bleus, c'est sûr. Si on arrive dans une guerre sans vouloir vraiment se battre, eh ben on va se faire détruire. Le péché nous livre une guerre. Est-ce que nous devons simplement essayer de négocier avec? Est-ce que nous sommes dans de la diplomatie? Est-ce que nous devons appliquer une stratégie type Nations Unies, essayer de négocier avec lui? Non, ce n'est pas possible. La parole de Dieu nous invite à lui livrer la guerre, à lutter contre lui, à détruire le péché, sinon, comme le disait John Owen, c'est lui qui vous détruira. Détruisez le péché ou il vous détruira. Et combien de vies nous avons pu voir et nous connaissons qui ont été détruites par le péché, où des frères et sœurs n'ont pas voulu mener ce combat-là et se retrouvent avec des conséquences pour toute leur vie. Nous n'avons pas le choix, nous devons lutter contre le péché. Mais pas simplement contre celui qui nous attriste, mais contre tout ce qui, dans notre vie, attriste Dieu. Certes, ce n'est pas un combat sans défaite, mais c'est un combat sans renoncement, dans lequel Christ est victorieux pour nous. Nous ne devons pas nous attaquer simplement aux symptômes, mais aux racines. Et la seule alternative que Christ a présentée face au péché est la radicalité. Traiter le péché dans notre vie d'une manière radicale. Ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin. Ta main aussi, tu la coupes, tu la jettes au loin. Tu ne peux pas négocier avec le péché. Ne pas en tolérer les moindres effets dans notre vie. Ne pas nous y accommoder. Jamais. Et voici la tension qu'il y a au sein de notre texte. Faire mourir le péché parce que Christ est mort pour nous en délivrer. Mais il y a une deuxième tension qui nous amène à notre deuxième point. Paul nous dit de faire mourir, mais aussi de laisser vivre. Et il est vrai je viens largement de le souligner, que la vie chrétienne consiste aussi largement à faire activement mourir le péché. Le défi de la sanctification est là du début à la fin. C'est une réalité quotidienne pour nous. Mais la vie chrétienne implique aussi, également, heureusement, et ça c'est le côté positif, de laisser vivre la vie de Christ ressuscité en nous. Ce Christ souverain et glorieux. Laissez vivre ce pourquoi il vit, et c'est notre deuxième point. Vous êtes ressuscité avec Christ, rappelle Paul au début du chapitre 3. Le fait d'être ressuscité avec Christ a des conséquences importantes, tout aussi importantes que la lutte contre le péché. Notre vie entière est structurée par cette réalité-là. Nous sommes ressuscités avec lui et c'est ce qui va structurer notre vie. Le regard porté sur Christ que nous devons avoir est celui que Paul nous révèle. Le voir lui, Christ, tel qu'il est vivant, pas un Christ qui est mort, un Christ qui est vivant et qui est assis à la droite de Dieu. Et cela veut dire que Christ règne sur le monde et qu'il est souverain sur tout ce que nous pouvons être appelés à vivre. Sur tout ce que nous pouvons être appelés à vivre, Christ est souverain. Et cette réalité-là, et c'est celle qui va donner toute l'orientation et la structuration à notre vie et à nos objectifs. Ceci implique que la réalité de la croix décentre nos regards d'un présent parfois difficile, parfois frustrant ou insatisfaisant, vers une réalité beaucoup plus certaine, celle d'être vivant en Christ et d'être avec Christ qui est souverain sur toute chose. Paul nous invite à voir au-delà. Notre espérance est certaine, rappelle-t-il au verset 4. Et c'est vrai que la souveraineté de Christ, ainsi que la réalité de sa résurrection, nous est cachée, et cachée aux yeux du plus grand nombre. Mais nous avons la victoire, nous savons que la victoire absolue de Christ sur la mort nous assure que leur manifestation est certaine le jour de son retour. La manifestation du triomphe de Christ sera certaine pour son retour et toutes les bénédictions nous seront totalement imputées. Ce que ceci implique concrètement pour nous, nous sommes appelés à vivre aujourd'hui dans la confiance en Christ qui règne de fait et en comptant sur l'espérance indéfectible que nous avons de partager sa gloire. Ceci doit structurer notre vie. Ce que je crois, pour le dire d'une autre manière, ce que je crois et c'est du monde à venir est ce qui détermine comment je vis dans le temps présent. C'est la perspective de la fin qui me motive aujourd'hui. Lorsque nous plongeons nos regards dans l'œuvre de l'Évangile, dans la mort, mais aussi dans la résurrection de Christ, nous mettons les pendules à l'heure face à notre vie. Ce que nous sommes n'a pas encore été totalement révélé et ne se détermine pas entièrement par ce que nous pouvons voir de nous-mêmes aujourd'hui. Ce que nous comprenons de nous-mêmes aujourd'hui dans cette réalité qui n'est pas totalement encore révélée, notre vie aujourd'hui est déterminée en partie par la réalité à venir, la manifestation de Christ en gloire. Et probablement qu'une partie de notre vie, de la cause du découragement spirituel que nous pouvons vivre, est parce que nous déconnectons notre vie quotidienne de l'espérance à venir qui est vivante pour nous. Vivre en Christ, c'est vivre dans la foi, cette vérité cachée, et pourtant plus réelle que n'importe quelle autre vérité. C'est pour cela, dit Paul, que nous cherchons ce qui est en haut. Chercher les choses d'en haut, c'est vivre le présent en fonction de la réalité la plus vraie, de la réalité la plus solide et la plus importante, celle que Dieu nous révèle en Christ. Et je crois qu'on peut aussi dégager une deuxième implication sous forme d'un avertissement pour nous. Chercher ce qui est en haut en abandonnant ce qui est en bas. Dire, comme Paul, que notre vie est cachée avec Christ ne veut pas dire que nous vivons dans un bocal, que nous vivons une vie chrétienne hors sol, que nous vivons une vie chrétienne coupée du monde. Parce que la vie de foi dans le Nouveau Testament est profondément inscrite dans la réalité concrète de notre vie. Ce que nous voyons et percevons avec nos facultés et nos sens naturels n'est pas la réalité ultime. Et nous ne devons pas l'oublier. La réalité ultime est celle que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous le verrons dans sa gloire. Nous sommes élus par Dieu, saints et bien-aimés, comme le dit Paul. Ceci nous rappelle que notre vie chrétienne n'est pas livrée au hasard de nos choix parfois totalement désolants, des événements de notre vie ou des rencontres au jour le jour. Non, notre vie découle du dessein éternel de salut que Dieu a pensé et réalisé pour nous en Jésus-Christ. Dieu nous a choisis pour nous consacrer à lui. Et ceci ne fait pas de nous des pions interchangeables. Dieu aurait pu en choisir un et pas l'autre. Non, Dieu nous a choisis, consacrés et aimés. Il nous a appelés pour nous montrer son amour, parce qu'il nous aime. La contemplation de l'œuvre de Christ nous amène à nous voir sous ce regard-là. Nous sommes privilégiés d'être au bénéfice de l'amour efficace de Dieu. Pour conclure, je voudrais juste revenir sur cette notion dont Paul parle, où Paul nous dit de revêtir. Que veut-il dire par là ? Je l'ai fait remarquer, si nous avons à faire mourir ce qui relève du péché dans notre vie, nous n'avons pas à faire vivre Christ en nous. Christ vit de lui-même par l'Esprit en nous. La présence de Christ en nous n'est pas dépendante de nous-mêmes, elle est dépendante du Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait vivre Christ en nous. Mais Paul nous appelle en quelque sorte à laisser vivre cette vie de résurrection en nous, ce nouvel homme, en utilisant l'image du vêtement que l'on revêt. Revêtez-vous. Alors, il ne faudrait pas comprendre l'idée comme une sorte de déguisement. Mettez le déguisement de Jésus, et encore moins, le déguisement du dimanche matin pour être devant les gens. Il ne s'agit pas de revêtir une armure semi-littéral et semi-spirituel, qui aurait des pouvoirs magiques. L'expression que Paul emploie relève plutôt de l'expression d'un statut que nous avons en Christ. Nous devons revêtir le statut que nous avons en Christ, revêtir le vêtement royal de Christ. Le roi se met dans son apparat pour juger le monde, pour gouverner, et Paul nous invite à assumer notre statut de nouvelle créature. Nous pouvons dès à présent assumer activement la réalité opérée en Christ, ce statut d'homme nouveau, en laissant cette vie agir avec puissance en nous. Et je termine juste avec cette pensée, au regard du contexte direct que nous avons dans l'Épître aux Colossiens. Nous pourrions finir avec un esprit de triomphalisme très important. La mort de Christ nous donne une manifestation de force, nous revêtons les habits du roi et nous avons toute puissance et nous avons une force qui nous est communiquée. Oui, oui, Christ nous communique sa force. Mais il nous faut faire attention. Dans le contexte direct de l'Épître aux Corinthiens, on voit clairement que Paul veut faire une démonstration différente de la force de l'Évangile. Sa puissance d'action et de transformation que Paul décrit se traduit souvent par des qualités que nos contemporains, et nous-mêmes, je pense, bien souvent, moi le premier, associeraient plutôt à de la faiblesse. Dès le début de l'Épître, au verset 11, Paul prie pour que les chrétiens deviennent puissants par la force glorieuse de Dieu, en vue de quoi ? Eh bien, de la persévérance et de la patience. Ici, dans notre contexte, il est question de se revêtir, mais de quoi ? D'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, et même de supporter les autres. Vous vous rendez compte ? Une force qui nous permet de supporter les autres. Alors ça, c'est une force. L'œuvre et la mort, l'œuvre de la mort et de la résurrection de Christ ouvre nos entrailles à la miséricorde de Dieu. Il s'agit donc, dans un sens, d'accepter d'être vulnérable, accepter d'imiter Christ dans sa fragilité. Ne pas chercher peut-être à tout prix à vouloir avoir raison, à se justifier, mais au contraire, de se laisser humblement affecter, touché par l'autre, blessé par l'autre, parce que nous savons que nous trouvons en Christ la force de la guérison. Ce n'est pas, peut-être pas toujours ainsi que nous vivons, mais à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est notre programme, c'est notre objectif de vie, c'est l'œuvre de vie à laquelle Christ nous appelle, faire mourir et laisser vivre. Faire mourir en nous ce pourquoi il est mort et laisser vivre en nous ce pourquoi il vit. Amen.